quand on parle de purification du cœur, il est important de savoir que la purification n'est pas un état, mais un processus continu. Tout comme nous passons une journée à faire attention à notre propreté corporelle, nous devons de la même manière tendre à notre pureté spirituelle, car la purification et la sincérité ne survivent pas à une relation passive. Ce ne sont pas des qualités qui s'enflamment et brillent sans assistance. Pour cette raison, l'imam Maouloud déclare que ce qui est le plus bénéfique pour la purification du cœur, ce sont ces actes qui sont accomplis avec cohérence, même s'ils sont petits. Ceci est basé sur la déclaration du prophète. Les meilleures actions sont les actions continues, même si elles sont légères. C'est comme de l'argenterie, on peut la polir, avec quelques coups durs puis la laisser. Ou bien on peut la polir doucement et régulièrement, pour que son scintillement soit maintenu. Laissé sans surveillance, le cœur s'encroûte. Les actes malsains s'accumulent et enlèvent sa pureté. Mais avec un travail constant sur l'auto-purification, le cœur se purifie et est maintenu de cette façon. Une fois, un compagnon a demandé au prophète, paix et salut d'Allah sur lui, de recommander un jeûne. Le prophète a dit, jeûne 3 jours par mois, qui sont les jours du milieu du mois, où la lune est la plus pleine. La première chose que le prophète recommandait était modérée, la voix du prophète est par essence la modération. Le compagnon a dit, je peux faire plus. Alors le prophète a dit, puis jeûne les lundis et jeudis. Le compagnon a indiqué qu'il était capable de jeûner encore plus. Le prophète a alors recommandé. Alors jeûne tous les 2 jours. Ceci étant le jeûne de David. Et ne dépasse pas cela, a-t-il ajouté. Alors ce compagnon a commencé à jeûner tous les 2 jours, et a continué toute sa vie. Quand il a atteint la vieillesse, le compagnon aurait dit qu'il aurait souhaité qu'il ait suivi la première recommandation du prophète, et ne jeûne que 3 jours par mois. Les érudits ont commenté que lorsque les compagnons du prophète ont s'engagé à faire des rites de culte surérogatoire, ils les faisaient pendant toute leur vie. C'était quelque chose qu'ils ont embrassé comme une pratique spirituelle, et ils ne l'ont pas abandonné. Cela ne veut pas dire que c'est une obligation. Mais si les gens souhaitent s'élever dans leur cheminement spirituel, leurs actes d'adoration doivent être réguliers et cohérents. Le prophète Muhammad était un prophète universel, ce qui signifie, entre autres, qu'il était un exemple pour tous. Il a jeûné, et a rompu ses jeûnes. Il a prié, et il s'est reposé. L'exemple de la vie du prophète a quelque chose à apporter aux personnes aux forces et faiblesses diverses. Pour certaines personnes, Dieu ouvrira leur cœur à la prière nocturne. Pour d'autres, leur cœur sera ouvert à la récitation du Coran. Pour d'autres encore, cela peut être la générosité en donnant la charité ou en pratiquant l'évocation d'Allah. Le jeûne sera l'amour et la passion de certaines personnes, tandis que d'autres aimeront et mémoriseront les hadiths et les enseignants. Il y a beaucoup de choses dans l'islam et dans le beau modèle du prophète que l'on peut adopter. Nous trouvons très rarement une personne qui englobe toutes, ou même la plupart, des qualités. Mais si une personne se voit encline à un certain rite de culte surérogatoire, alors elle devrait le suivre et être cohérente. L'imam Malik a dit « Dieu a ouvert à ses serviteurs les portes de la bonté. Pour certains, il ouvre les portes du jeûne, pour d'autres, il ouvre les portes de la charité, d'autres encore, des portes de la connaissance et de l'enseignement, et pour d'autres, des portes de l'abstinence et du contentement. Et je suis content de ce que Dieu m'a ouvert en éduquant les gens. » L'imam Maouloud dit que l'on devrait consciemment accomplir des actes de dévotion en l'absence de témoins. Si l'on donne ouvertement la charité, cela est bon, mais en secret c'est mieux. Cela protège contre l'ostentation. Fudayl ibn Iyad marchait jadis dans une rue et quelqu'un déclara. Voilà un homme qui passe toute la nuit à prier. Fudayl se mit à pleurer et dit. Je ne me souviens pas avoir passé une nuit entière en prière. Oh, combien Dieu m'a honoré en faisant croire aux gens que je suis meilleur que ce que je connais de moi-même. Un acte d'adoration accompli pour l'amour de Dieu a un niveau supérieur à ces actes commis par peur des flammes infernales. C'est une compréhension commune parmi les érudits à travers les âges, y compris l'imam al-Razali. Ce point de vue ne minimise pas la peur du châtiment, mais il attribue une position plus élevée à guider sa conduite hors de la crainte de Dieu et d'un sens accru de sa majesté et de sa grandeur. L'ascète fait ce qu'il fait pour aucune autre raison que le plaisir et l'amour de Dieu. C'est l'action la plus élevée. L'ascétisme dans l'islam diffère des autres traditions. Dans l'islam, l'essence de l'ascèse est l'absence de besoin. L'ascète est celui qui n'a pas d'attachement dans son cœur pour les choses matérielles. De nombreux compagnons du prophète étaient riches, mais, comme Abdurrahman ibn Aouf, ils étaient également considérés comme ascètes malgré leur richesse. L'imam Maouloud dit que lutter avec l'énergie de l'espoir est tenu en plus haute estime que d'être poussé par la peur. Cela est particulièrement vrai lorsque les bienfaits de ces actes touchent la vie des autres, ce qui est le cas de la charité envers les nécessiteux. Il y a tellement d'espoir dans l'islam, sa croyance et son génie regorgent d'optimisme et de dynamisme. Planter un arbre à partir duquel les oiseaux mangent fait fructifier la récompense du planteur tant que cet arbre est debout. L'espérance est lumière. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. 33. 21.